Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
De l'évangile, Luc chapitre 17, et nous allons commencer notre lecture au verset 11. Voilà, alors, on va prendre en considération un aspect des choses. Je vais vous parler du regard. Voilà. Alors, dans la Bible, c'est un mot qui revient assez souvent, et il nous y dit que Dieu regarde les hommes, que les hommes ne peuvent pas regarder Dieu, que les hommes se regardent les uns les autres, qu'il y a des regards lumineux, qu'il y a des regards qui parlent, qu'il y a des regards qui expriment tous les sentiments, que ce soit le bien et le mal. Alors, on va tout simplement, évoquer ce que sont les regards croisés. Il y en a toute une foule, mais on va parler particulièrement de Jésus. Jésus a regardé. Il a regardé ce que nous voyons également, cette création, il a regardé les hommes, il les a regardés au plus profond d'eux-mêmes, sans qu'ils s'en aperçoivent, connaissant leurs pensées, il a regardé leur misère, leur souffrance. Alors on va justement prendre ce texte, je vous ai donné la situation. Donc verset 11, « Jésus, se rendant à Jérusalem, passé entre la Samarie et la Galilée, comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, maître, aie pitié de nous !» Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur !» Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris ? Et les 9 autres, où sont-ils ? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ?» Puis il lui dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Alors nous parlions justement de regard, de regarder, et je vous disais qu'il y a des belles histoires justement qui relatent le salut. Moi je pense par exemple à un regard de salut qui nous est rappelé dans l'histoire des serpents brûlants, vous savez. À un moment donné, c'est aussi une histoire de regard. Dans le désert où les Hébreux étaient en danger de mort avec les serpents, et alors qu'il mourait beaucoup de gens en Israël, Moïse a, sous la conduite de Dieu, a élevé un serpent dans ce fameux désert, et tous ceux qui avaient été mordus et qui regardaient ce serpent étaient guéris et ils étaient sauvés. Vous avez remarqué avec moi, soit le mot est écrit, ou soit, il dévoile finalement, ce que peut être un regard. Vous avez remarqué avec moi, il nous est dit que Jésus a vu les lépreux. Un peu plus loin, il leur a donné un ordre. Allez vous faire voir. Enfin, dans le texte, c'est allez vous montrer. Allez vous faire voir au sacrificateur. Et puis, celui qui reviendra vers Jésus, se voyant guéri. Et puis également, il a rendu grâce, c'est-à-dire qu'il a vu l'œuvre de Dieu. Il a vu, il a reconnu dans sa vie que Dieu avait posé sa main. Alors, on pourrait appeler les quatre regards, tout simplement. Et on va parler un petit peu du contexte. Nous voyons que Jésus se rend à Jérusalem et il devait passer, comme cela nous est raconté dans une autre histoire, entre tout simplement la Samarie et la Galilée. Ça vous rappelle la femme samaritaine, ça aussi. Et là aussi, elle a vu les œuvres de Dieu. Elle a vu que Jésus avait vu dans son cœur et qu'il lui avait dévoilé sa vie. Et devant ce dévoilement, elle s'est choquée de sa conscience complètement bouleversée de ce qu'un homme lui avait dit, tout ce qu'elle avait fait, parce qu'il avait vu. Il connaissait son histoire, il connaissait son passé, il connaissait sa misère. Et certainement que Jésus, en l'appelant, avait déjà vu ce qu'elle deviendrait plus tard. Avec, la découverte d'une vie nouvelle. Alors nous voyons que Jésus donc se trouve dans cette région entre la Samarie et la Galilée parce qu'il allait à Jérusalem et il est entré à un moment donné dans un village. Et dans ce village, alors à ce moment-là, il y a eu 10 lépreux qui ont surgi, on peut dire cela, ils sont venus à sa rencontre, chose inaccoutumée puisque les lépreux, quand ils voyaient des biens portants, eh bien normalement ils avaient l'injonction de fuir. Hein, et vous l'avez souvent entendu, et peut-être qu'on l'a appris à l'école, au Moyen-Âge, il y avait beaucoup de lépreux dans toute l'Europe, hein, même chez nous, et ils devaient se déplacer, ils devaient avoir comme instrument eh bien, une crécelle, et ils devaient crier « lépreux, lépreux, lépreux », voilà. Hein, ça c'était un avertissement pour que les autres ne viennent pas être contaminés, et puis ils vivaient reclus, ils vivaient là, en dehors, au banc de la société, et je pense que du temps de Jésus, ça devait être à peu près la même chose, mais là, ils sont venus vers Jésus, ils ont vu Jésus et ils sont venus vers lui sans crainte et sans peur. Et néanmoins, ils se sont tenus à distance, nous dit le texte, et ils élevèrent la voix, tous ensemble, ça devait faire du bruit, hein. 10 hommes qui crient leur misère, qui se sont unis ensemble dans la même infortune, parce que peut-être que quand on partage les choses, on est peut-être moins malheureux que tout seul, parce qu'ils avaient un mal commun, c'était la lèpre, peut-être à différents degrés de gravité, hein, et... C'était quelque chose d'épouvantable. Aujourd'hui, on ne voit plus ça. On voit ça dans certains pays de l'Orient ou de l'Extrême-Orient. Et la lèpre, c'est encore une maladie qui est courante hein, dans certaines parties du monde. D'après les estimations, il y a quelques années, il semble qu'il y avait encore 20 millions de lépreux sur la planète. Imaginez-vous ce que ça représente. Hein, c'est considérable. Alors, ils sont venus, ils ont vu Jésus, ils sont approchés de lui. Et néanmoins, se tenant à une certaine distance, ils ont élevé la voix et ils lui ont dit cette parole tout simplement. Ils lui ont dit « Jésus, maître, aie pitié de nous ». Donc, ils vont quand même utiliser le nom de Jésus. Ils l'avaient identifié, ils l'avaient non seulement vu ou aperçu, mais s'ils disent « Jésus », c'est qu'ils avaient certainement entendu parler. Alors, on peut toujours spéculer, je ne veux pas le faire, hein, mais... Il y avait déjà eu un cas ou des cas précédents où, je pense à ce lépreux, qui un jour s'est présenté devant Jésus et lui a dit « Mais si tu le veux, tu peux me rendre pur ». Vous vous souvenez de l'histoire, hein ? Elle est rapportée dans Matthieu, entre autres. Et nous voyons que Jésus a été beaucoup plus loin que ce que cet homme demandait, parce que non seulement, eh bien, il lui a apporté la guérison et la purification de sa lèpre, mais il l'a touché. Ça, c'est encore un geste d'une grande audace. Toucher un lépreux, imaginez-vous, alors que c'était des hommes, les uns et les autres se rencontrant, l'un et l'autre, celui qui est saint et celui qui est impur, tenaient une distance, parce que c'était pas possible autrement. Hein. Il y avait là cette barrière qui faisait la séparation entre le bien portant et puis le malade, naturellement. Et pourtant, Jésus a eu cette audace. Et cette compassion, parce que ce geste de Jésus était un geste pour encourager cet homme, mais pour lui dire aussi un autre message. Bien que tu sois lépreux, bien que tu sois impur, en tous les cas, si les hommes te fuient, moi, je t'aime. Ça pouvait se traduire de cette manière. Alors peut-être que le témoignage était de passer de bouche à oreille en disant, mais parce que cet homme qui avait été le premier de celui dont je vous parle, il avait dû parler après. Moi, j'étais impur et maintenant je suis devenu... finalement, eh bien, un homme en bonne santé. Et ça a dû faire une traînée de poudre parmi toute la société des lépreux de l'époque. Hein. Ils devaient se dire, mais il y a un homme. Vous savez comment il s'appelle ? Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il est prophète. Certains disent qu'il est même le Messie de Dieu. Et moi, il m'a guéri. Et vous savez comment il m'a guéri ? Non seulement parce qu'il m'a parlé, parce qu'il s'est approché de moi, mais il a fait un geste. Et ce geste... Cet homme n'avait certainement jamais oublié parce que il y a bien longtemps que on n'aurait pas touché certainement et bien un homme malade comme lui. Alors peut-être que c'était passé dans le témoignage et que ces 10 lépreux avaient su qu'il y avait cet homme et il était de Galilée. Hein, et là, comme il passait de Galilée dans la Samarie pour aller à Jérusalem, je pense que il y avait déjà quelque chose qui avait été fait pour dire la puissance et la divinité de Jésus. Alors on lui dit, mais Jésus, maître, aie pitié de nous, on te demande qu'une chose. Alors que nous sommes privés de tout sentiment de la part de nos semblables, parce qu'on ne veut pas nous voir, parce que nous sommes des reclus, nous sommes des exclus de la société, c'est pas d'aujourd'hui, hein, on en parle encore maintenant, mais en tous les cas, une chose que l'on voudrait, c'est que, une petite chose, c'est que tu aies compassion de nous, que tu aies pitié de nous. Il ne demandait même pas peut-être la guérison. Bah, bien sûr, c'était sous-entendu. Si véritablement nous pouvons, eh bien là, avoir la manifestation de ta pitié, c'est que tu veux aller peut-être plus loin. Non seulement tu veux nous montrer que tu as de la compassion pour notre misère, pour notre malheur, pour notre affliction, mais derrière cette compassion, il y a certainement quelque chose d'autre. Alors, c'est sous-entendu, mais Seigneur, fais comme tu l'as déjà fait. Touche-nous et guéris-nous, nous serons purifiés et nous redeviendrons des hommes normaux, tout simplement. Alors nous en arrivons à notre premier regard. Il nous est dit « dès qu'il les eut vus ». Le regard de Jésus. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important parce que c'est un regard, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un regard de compassion sur la misère des hommes. Oui, de compassion sur la misère des hommes. Et la première chose que moi, je peux, sur laquelle je peux réfléchir et je peux finalement m'identifier, c'est le regard de Jésus sur moi. Ouais. Qu'est-ce que Jésus, quand il me voit, et qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il pense? Quels sont ses sentiments? Oh, il y a un très beau texte d'Ésaïe, je voudrais tout simplement vous le rappeler, vous le citer. Écoutez, c'est dans Ésaïe chapitre 66, verset 2, écoutez. C'est Dieu qui parle. Toutes ces choses, ma main les a faites. Alors la main, elle est divine. La main, elle n'est pas trop courte pour sauver les hommes, pour les bénir, pour les guérir. Toutes ces choses, ma main les a faites, dit Dieu, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Eh oui, nous recevons l'existence, nous recevons la vie de Dieu. Alors après, ce sont les diverses fortunes de la vie et de l'existence qui amènent un homme à garder la santé et l'autre peut-être d'être malade, tout simplement. Alors, elles ont reçu l'existence, et il est dit cette parole sur laquelle je m'arrête quelques instants, il est dit, mais voici sur qui je porterai mes regards. Ouais. Dieu regarde du haut du ciel. Hein. On voit que Dieu regarde. Par exemple, dans le livre de Job, si vous avez remarqué. Dans les psaumes, il nous est parlé des regards de Dieu. Très souvent. Voici sur qui je porterai mes regards, et la réponse, sur celui qui souffre, et qui a l'esprit abattu sur celui qui craint ma parole. Je trouve que ce sont des textes qui sont excellents, parce que nous savons que les sentiments de Dieu, c'est un regard qui compatit, qui comprend la souffrance des hommes, celui qui souffre, et à cause de cette souffrance, eh bien, l'homme dans cet état, on peut le comprendre, est abattu. Non seulement il souffre quelque chose de physique, mais si le physique ne va pas, eh bien peut-être l'intérieur n'est pas bien non plus. Le regard abattu. C'était peut-être l'état de ces 10 lépreux qui, peut-être s'entretenant les uns avec les autres, mais quand on s'entretient que d'une chose et que la vie n'est faite que d'une chose, c'est-à-dire de la maladie ou de la souffrance, c'est pas forcément édifiant. Hein. C'est pas forcément édifiant. Vous savez, quand on va dans un hôpital, quand on se retrouve sur un lit et que vous avez un voisin, et le sujet de conversation, la première chose, c'est « Pourquoi vous êtes là ?» Et quand ça commence, et que ça ne finit plus, vous recevez quelquefois, vous ressortez peut-être, et encore aujourd'hui, nous avons des chambres individuelles dans nos hôpitaux, mais il y a un certain temps, vous l'avez peut-être connu, hein, c'était des chambres collectives, hein, des dortoirs, imaginez-vous. Hein. Waouh, c'était terrible. Et toi à droite, et toi à gauche, et ceci et cela. Heureusement que les choses ont changé. Ce que je vois, il y a des sourires. C'est que vous avez connu ça, moi aussi. Je suis été hospitalisé dans les années 70, et c'est vrai que c'est encore à Paris, il y avait encore des dortoirs. Alors, c'était vraiment terrible, parce qu'il y en a un qui criait ici, il y en a un autre qui criait là, etc., etc. Il y en a un musulman qui faisait sa prière pour réveiller tout le monde en pleine nuit. Oh là 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 là, je me souviens, j'avais 17 ans à l'époque. Ah, c'était quelque chose, hein. Alors, c'est édifiant tout ça, vous comprenez? Ils étaient 10, mais je ne sais pas quel était le sujet de conversation, ça devait être leur misère. Mais écoutez ce qu'il nous est dit. Je porte les regards, et ça c'est une parole, et peut-être que quelqu'un peut s'identifier avec ça. Je porte les regards, et bien sur celui qui souffre, qui a l'esprit abattu, mais il y a quelque chose de formidable sur celui tout simplement, qui craint ma parole parce que Dieu parle. Et quand il parle, c'est pour apporter tout simplement un souffle de guérison, un souffle de vie, ou de renouveau de la vie, pour chasser le mal. Alors, c'est vrai que c'est un beau texte, et nous avons donc le regard de Jésus sur nous. Nous avons le regard de Jésus, si nous voulons nous l'approprier personnellement, il a le regard sur moi. Et personne, que personne ne dise, mais Dieu m'oublie. Dieu m'a abandonné, et c'est quelquefois ce que nous pouvons comprendre, c'est peut-être parfois ce que nous pouvons ressentir naturellement. Dès qu'il les eut vus, le premier regard, ça c'est important. Et vous avez remarqué, c'est Jésus qui les voit. Oh ben, c'est sûr qu'ils avaient vu Jésus, quand ils l'ont vu arriver dans le village. Ça, c'est une chose. Mais il y a bien longtemps que Jésus connaissait la misère de ces hommes. Probablement. Il savait, d'ailleurs, il est venu pour ça, précisément. Et puis voilà que, dès qu'il les eut vus, il leur a dit cette parole, il les regarde, et ensuite il leur donne sa parole. Ça fait un petit peu penser à ce jeune homme riche, où nous avons un peu le rassemblement, le résumé de ce que je viens de vous dire. Quand ce jeune homme riche est venu se prosterner aux pieds de Jésus parce qu'il avait une faim et une soif de besoins spirituels, de réponse à ses besoins spirituels, il nous est dit dans l'évangile de Marc, Jésus le regarda, il l'aima et il lui dit, il y a toute une chronologie, parce que n'allons pas parler avant d'avoir aimé et n'allons pas parler avant d'avoir regardé. Il l'a regardé, il l'a aimé, et ensuite il lui a dit ce qu'il avait besoin d'entendre, tout simplement. Alors, si nous poursuivons, il dira à ces hommes, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Ça pourrait dire, parce que c'était des juifs naturellement, enfin il y en avait 9 qui étaient juifs, Jésus leur demande de se faire voir, parce que aller se montrer, c'est ça, hein. « Allez vous faire voir. » Alors aujourd'hui c'est très péjoratif, « Allez vous faire voir. » vous comprenez mon langage quand même, hein? Parce que je vous vois sourire. C'est-à-dire que, allez, voilà, on n'a pas besoin, hein? Mais là, il y a quelque chose qui reste dans la pensée. Allez vous montrer au grand prêtre. Parce qu'il y avait toute une institution que je ne vais pas détailler, que je connais pas trop non plus, hein, dans le judaïsme, pour ceux qui étaient frappés de la lèpre, qui était une maladie impure, une maladie avec connotation de châtiment à cause du péché, et qu'il fallait, eh bien, là, se présenter devant le sacrificateur, et qui lui, eh bien, voilà, avait certainement quelque chose à faire. Allez vous montrer. Oui. Et cette deuxième remarque que nous avons, eh bien, elle nous parle tout simplement du regard des hommes en guise de témoignage. Oui. J'étais malade et je suis guéri. Et non seulement je le dis, mais vous le voyez. C'est l'histoire de l'aveugle à la belle porte du temple. C'est l'histoire de ceux où Jésus est obligé de leur dire « Mais ne faites pas trop de publicité, hein, avant le temps. » C'est le regard des hommes en guise de témoignage. C'est le regard des autres sur ma vie. Et je voudrais ajouter quelque chose, c'est que la plénitude de la guérison divine est arrivée par Jésus-Christ. Dans l'ancienne alliance, on peut pas dire que quand les gens étaient malades de diverses infections ou afflictions, que c'était la panacée à ce moment-là. Bien sûr qu'il y avait pour un lépreux d'aller voir le sacrificateur, qui lui-même, eh bien, allait offrir des offrandes pour, eh bien, là, constatant qu'il y avait eu quelque chose, un doigt divin qui avait touché. Mais ça reste toujours insuffisant. Mais la supériorité de la guérison divine, nous la trouvons pleinement et totalement dans le Nouveau Testament, à travers la venue de Jésus. Car c'est dans ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est seulement dans ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ce n'est pas les offrandes de ceci et cela. Ce n'est pas parce que nous allons, eh bien, là, nous présenter, nous faire voir, nous montrer à d'un endroit ou à un autre, à quiconque, ou à celui-ci ou celui-là. C'est pas ça, hein. Jésus, véritablement, eh bien, comble toutes les insuffisances humaines. Et c'est plus qu'un sacrificateur que nous avons. C'est plus qu'un prêtre. Jésus est véritablement, eh bien, le Fils de Dieu. Il est Dieu lui-même, qui a compassion, comme nous l'avons vu dans le premier regard qu'il porte sur ces gens. Et c'est quelque chose, donc, de tellement profond. Et c'était en guise de témoignage. Mais Jésus savait qu'il allait y avoir un miracle. Et il fallait rendre témoignage aussi à la nation d'Israël que le véritable médecin des corps, pour la lèpre, des cœurs, de la vie entière d'un être, eh bien c'était lui. Il allait remplacer tout le système. C'était plus la peine de faire tout ce que toutes les prescriptions de Moïse, et puis il y en avait beaucoup d'autres qui y avaient été ajoutées naturellement, que eh bien le temps était fini, le temps était révolu. Et Jésus va accomplir parfaitement, finalement, la parole de Dieu, complètement et totalement. Le regard de Jésus sur moi, nous l'avons dit. Le regard de Jésus sur ma vie, et qui restera toujours insuffisant. Nous pouvons nous tourner vers les hommes, vers les meilleurs, mais que peuvent-ils faire pour nous? Ils resteront toujours des hommes, et moi je serai toujours aussi un homme, avec la tentation de me tourner vers les hommes, parce qu'en pensant qu'ils ont la réponse. Or, la véritable réponse, c'est Jésus. C'est tout. C'est le cœur même de la guérison divine. Point besoin d'aller chercher de droite et de gauche. Alors, c'est le deuxième regard croisé, le deuxième regard que nous avons devant nous. Alors, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, parce qu'ils ont obéi. Il faut bien dire que Jésus leur a dit, ils avaient en quelque sorte la foi, peut-être sur un témoignage qu'ils avaient reçu, hein, ça reste toujours très hypothétique ce que je suis en train de vous dire, la foi qu'ils avaient reçue par le témoignage peut-être de ce lépreux, hein, on va pas imaginer plus que cela. Alors, toujours est-il que néanmoins cette fois ils ont commencé à marcher, mais pour aller jusqu'au bout il faut continuer et atteindre le but. Normalement le but c'était d'aller voir le sacrificateur. Alors, pendant qu'ils y allaient, donc ils ont cru, ils ont obéi, il arriva qu'ils furent guéris, imaginez-vous. Je l'ai dit souvent, se regardant les uns les autres en disant, regarde comment tu es. Donc celui qui il pouvait pas se voir naturellement, c'était l'autre qui lui disait. Et puis les uns et les autres, ils se sont dit, mais nous sommes tous guéris. La parole de cet homme est une parole puissante. C'est une parole divine. Ils se sont pas exclamés, c'est le Messie venu de Dieu, parce que, voilà, ça n'est pas écrit. Mais toujours est-il que ils furent guéris les uns et les autres. Mais ce qui est intéressant et ce qui est à relever maintenant, c'est que l'un d'eux, parmi les dix, l'un d'eux se voyant guéri. Alors, peut-être qu'il a vu ses camarades d'infortune, il les a vus, ils l'ont bien vu, mais je crois que cette expression « se voyant guéri », c'est pas seulement qu'il a regardé peut-être ses mains, et puis voilà ce qu'il pouvait être découvert, hein, et qui était frappé de la lèpre, de la maladie, mais je crois qu'à l'intérieur, il y avait quelque chose qui a dû certainement aussi être une illumination. Se voyant guéri. Dans la guérison divine d'aujourd'hui, dans l'action de Dieu, du Saint-Esprit dans notre vie, quelquefois nous avons une conviction à l'intérieur où nous nous sentons exaucés de nos prières. Alors, avant ou après constatation, je ne sais pas, mais quelquefois, nous avons entendu ces beaux témoignages, c'est merveilleux, et je crois que Dieu travaille encore aujourd'hui, c'est que nous avons comme une conviction qui vient, une grande paix, un bonheur qui monte à l'intérieur de nous-mêmes, et je me vois guéri, je me vois délivré, je me vois soulagé de mes fardeaux. Ça, c'est un sentiment profond. Et ça nous est dit de cette manière, se voyant guéri, tout simplement. Ça, c'est le troisième regard. C'est le regard sur soi-même, constat de l'œuvre miraculeuse et divine, œuvre invisible qui va devenir visible. Ouais, c'est le constat, en quelque sorte, de l'œuvre miraculeuse de Dieu. Et ce regard sur moi-même, quel est-il? Est-ce que c'est un regard de foi? Est-ce que c'est un regard de certitude et d'assurance que celui que j'invoque ou celui que j'ai entendu, celui qui m'a fait la promesse, va accomplir exactement ce qu'il a dit? Il y a un ressenti à l'intérieur de nous-mêmes. Ce ressenti, c'est pas de, voilà, hein, ce genre de sentiment superstitieux en disant, voilà, c'est, non. C'est quelque chose qui est profond, c'est quelque chose qui est au fond de nous-mêmes. Et quel est le ressenti que nous pouvons avoir nous-mêmes? Quel est le regard que nous pouvons avoir sur nous-mêmes? Il y a dans un psaume cette parole qui est une parole négative, naturellement. Mais Dieu changera cette parole négative en explosion de joie. Dans le psalmie, je crois que c'est dans le psaume 102, 103, je ne sais plus exactement, mais en tous les cas, c'est dans les psaumes. Je ne sais pas si c'est David ou quelqu'un d'autre qui dira « Je me disais ». Oui, je me disais, dans ma souffrance, dans ma peine, parfois dans mon état dans lequel je suis si malheureux. C'est le contraire de la foi, hein. Et nous savons que souvent nous avons ce sentiment, mais je dis, mais je me disais, je suis si malheureux, je me vois si malheureux. Ben, il ne faut pas seulement se voir si malheureux, il faut se voir comme étant restauré dans nos forces, dans nos capacités, dans notre véritable identité, si notre âme a été atteinte, eh bien il faut se voir déjà dans ce bonheur que Dieu nous donne lorsqu'il pose sa main sur nous. Et là, à ce moment-là, eh bien on passe du malheur au bonheur. On passe des larmes à l'allégresse. On passe de la tristesse à la joie. Si nous voulons nous voir comme ça, et si nous voulons nous voir comme ça, eh bien, c'est ça ce qui va soutenir notre foi pour aller jusqu'au bout. Vous voyez, il y a aussi des exemples où les gens, eh bien, sont venus vers Jésus et ils sont allés à travers des obstacles, avec toutes sortes de barrières, et qui, à travers tout cela, eh bien, ont passé tous ces moments difficiles parce qu'ils avaient une conviction dans le cœur. Comment nous voyons-nous? Est-ce que nous nous voyons désespérés? Mais c'est vrai que quand on est dans la souffrance, particulièrement lorsque nous sommes atteints psychologiquement ou moralement, ça c'est encore un mal, c'est impalpable ce mal-là, ces mots-là. C'est quelque chose qu'on a du mal à saisir, parce que on se demande où est le mal. Quand vous avez mal, par exemple, à une main ou à un pied, vous savez que c'est la main ou le pied. Mais à l'intérieur de nous-mêmes, ça se promène dans tous les sens. Ma tête, mes pensées, mon cœur, mes sentiments, mon âme. Je soupire, Seigneur, je soupire, je ne sais pas de quoi je suis malade, mais je suis malade. Et c'est vrai que c'est difficile de situer, c'est difficile de savoir où est le mal, mais il y en a un qui nous voit. Comme dans le premier cas, le premier regard croisé, le regard de Jésus sur moi. Je peux me tourner vers les hommes, mais que peuvent-ils faire les hommes? Ce sont des hommes, tout simplement. Leur capacité reste limitée. Et le regard sur moi-même, à ce moment-là, quel est-il? Est-ce que je vais m'enfoncer dans ma misère en disant « Mais je me disais, je suis bien malheureux !» Mais vous avez remarqué, c'est au passé, je me disais, mais quand vous lisez le contexte du psaume où cet homme dit, mais je suis bien malheureux, Dieu est intervenu tout de suite après pour l'amener, eh bien là, à changer complètement et totalement sa vie. Et n'entretenons pas un regard sur nous négatif. Je suis malade parce que j'ai péché. Je suis malade parce que finalement, eh bien, il y a ceci et cela. Mais même si j'ai péché, il y a quand même une guérison préalable. C'est si je demande pardon, eh bien, le Seigneur me pardonne et je suis guéri. C'est ça la question. Mais de ne pas nous renfermer, de ne pas nous mettre en captivité, parce que ça c'est le but de l'ennemi, de nous renfermer pour que véritablement, eh bien, que notre regard sur nous-mêmes soit un regard de désespérance. Au contraire. Oui, le regard sur nous-mêmes. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas. Parce qu'il y a un double sens dans tout ça, il y a une double histoire. Et il glorifiait Dieu à haute voix. Tout simplement. Tout simplement, il s'est vu guéri. Et puis, il s'est dit, mais il y a quelque chose qui doit être fait maintenant. C'est ce qu'on appelle la mémoire du cœur. Et vous savez ce que c'est que la mémoire du cœur? C'est la reconnaissance. Et cet homme, eh bien, l'a exprimé. Il revint sur ses pas et il glorifiait Dieu. Les autres avaient continué leur marche. Ils étaient partis, comme Jésus leur avait dit, ils avaient obéi, ça c'est sûr. Et son expression de bonheur, il l'a manifestée en criant à haute voix. Et à ce moment-là, quand il est arrivé auprès de Jésus, il est tombé, finalement agenouillé devant le Seigneur, et il lui a rendu grâce. Il lui rendit grâce, il lui a rendu grâce. C'est le quatrième regard. C'est le regard de l'adoration. Et ce regard-là, eh bien, ce n'est pas avec nos yeux charnels. On peut fermer les yeux, et encore mieux, fermons les yeux pour adorer Dieu dans ses œuvres, dans son miracle, dans sa puissance surnaturelle. Il tomba à ses pieds et il a rendu grâce. Vous savez, je crois que ça, c'est quelque chose d'extraordinaire et de merveilleux lorsque, et nous pouvons le faire tous les jours, nous pouvons avoir les yeux fermés et voir le ciel ouvert, hein. Tout se ferme. Je ferme mes yeux. Et à ce moment-là, il y a une autre vision qui me vient. C'est pas les yeux de ma tête, c'est les yeux de mon cœur. Et je considère Dieu dans ses ouvrages. Je le considère dans ses œuvres merveilleuses. Je le considère dans son amour. Je le considère dans sa bonté. Je le considère dans sa puissance. Je le considère dans toute cette manifestation de l'œuvre de son Saint-Esprit. C'est le regard de la contemplation et le regard de l'admiration, en quelque sorte. C'est un autre regard. Et c'est un regard qui est magnifique parce qu'il m'ouvre d'autres horizons. Dieu a fait pour moi. Dieu a accompli. Dieu, eh bien, est venu me secourir. Et il nous est dit d'une manière très lapidaire, en trois mots, c'était un Samaritain. On aurait pu s'attendre à ce que la reconnaissance jaillisse du cœur de ces 9 juifs, 9 israélites qui étaient là, parce qu'ils avaient été préparés. Ils avaient été préparés à la venue du Messie, ils avaient été préparés par la parole, par les promesses, par la loi, par toutes sortes de choses. Ils avaient la connaissance, mais qui nous montre quelquefois la connaissance peut-être embarrassante lorsqu'elle n'est pas vécue d'une manière pratique, lorsqu'elle n'est pas réelle dans notre cœur. Elle peut se recouvrir de toutes sortes de choses, elle peut être enfouie sous la poussière d'une démarche de piété religieuse. Et là, à ce moment-là, elle est inopérante. Elle ne peut rien donner. Et c'est ce qui s'est passé pour les Juifs. Mais c'est ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui. Il y a bien des gens qui confessent le nom de Jésus, qui savent que Jésus est venu, etc., etc. Mais ils n'ont pas les yeux ouverts sur la réalité spirituelle des choses. Ils sont enferrés dans une tradition, dans une coutume, dans toutes sortes de superstitions, à peut-être le dire aussi. Et là, eh bien, ça ne leur amènera jamais. Alors ils continuent leur chemin, ces neuf lépreux guéris. Ils continuaient, comme si rien n'était. Ils n'avaient pas pensé qu'il y avait un changement dans l'ordre des choses. Et ce changement, c'est parce que Jésus les avait rencontrés. Et quand on rencontre Jésus, il y a nécessairement un changement dans la vie. C'est pas possible autrement. C'est Jésus qui change la vie, c'est pas la religion, c'est pas nos dévotions, c'est pas une prière de ceci et cela. Quand je vois, je pense qu'on les appelle des ex-voto. Quand on voit tous ces gens qui vont là dans des édifices religieux pour mettre des bougies, qui mettent des plaques, etc., etc. Oui. C'est aussi une forme de reconnaissance. Mais ils ne vont pas vers Jésus, ils vont vers l'Église. Enfin, ce qu'ils connaissent. Là où ils sont censés, croyants, être en mesure de rencontrer le Seigneur. Mais écoutez, c'est pas ça ce qui sauve. Ce qui sauve, c'est de rencontrer Jésus sur notre vie, dans notre vie et sur notre chemin. C'est lui qui est capable d'enlever nos lèpres. C'est lui qui est capable de pardonner nos péchés. C'est lui qui est capable de guérir nos maladies. Et il y en a eu 1 sur 10. Qui a compris qu'il y avait une révolution spirituelle à ce moment-là, qu'il y avait quelque chose qui était tout autre. Lui, il n'était certainement pas le Samaritain revenu vers Jésus, il n'était pas embarrassé par toutes les traditions des Juifs, par Jérusalem d'un côté, la synagogue de l'autre, les docteurs de la loi, etc., etc. Il était plus libre que les autres. Et pourtant, les autres avaient plus de connaissances. Mais si notre connaissance n'édifie pas, si elle n'est pas faite dans l'amour, si elle n'est pas faite sous la lumière du Saint-Esprit, elle sert à quoi notre connaissance? Parce qu'on n'est pas sauvé avec notre tête, on est sauvé avec notre cœur. Hein. Et cet homme a fonctionné avec son cœur, se voyant guéri. Il a fait demi-tour, il est revenu vers Jésus, et à ce moment-là, déjà sur le chemin, il chantait la gloire de Dieu, et quand il est tombé aux pieds de Jésus, il lui a rendu grâce. Cette vision qui nous fait fermer les yeux et qui nous ouvre les yeux sur un autre monde, le monde spirituel, le monde de l'amour de Dieu, le monde de la dimension de l'infini, naturellement. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, s'est adressé à lui, et il va lui poser la question en lieu et place pour les autres qui n'étaient plus là, qui avaient continué à suivre leur chemin, qui étaient retournés vers le prêtre, le sacrificateur, qui n'avaient rien changé à leur vie, qui n'avaient rien compris pour changer peut-être à leur vie. Alors, il leur pose la question, mais les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres? Où sont-ils? Vous étiez 10 au départ. Et voilà que tu es le seul à revenir me voir pour glorifier Dieu. Et les 9, dis-moi, tu étais avec eux. Ils n'ont rien ressenti, ils n'ont rien vécu, ils n'ont rien touché. Mais naturellement, les 10 ont été guéris, mais où sont-ils? Et Jésus va donner cette parole, qui est une belle parole, qui nous interpelle. Il dira, mais ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Ils étaient guéris d'Alep, mais ils avaient les yeux fermés sur ce 4e regard. Ils avaient les yeux fermés pour donner gloire à Dieu. La conclusion pourrait être la suivante, parce qu'elle allie le salut et la guérison avec le salut. Les autres ont été certainement guéris par la main miraculeuse, la main surnaturelle de Dieu. Mais il y a une grande différence. Ils sont allés témoigner auprès du prêtre, de la religion, de leur guérison. Mais il y en a un qui avait un double témoignage à rendre. C'est que non seulement il a été guéri, mais il était sauvé. Jésus va lui dire, lève-toi, va ta foi t'a sauvé. La foi peut sauver de nos maladies, de nos souffrances. Mais la foi, elle a aussi cette vertu, par l'expérience que nous pouvons faire d'une chose extraordinaire, formidable, miraculeuse dans notre vie, c'est de nous amener à être sauvés dans notre âme, à être sauvés dans notre vie profonde et sauvés pour l'éternité. Je pense que depuis ces 9 lépreux ont dû mourir, hein, ça fait 2000 ans maintenant. Oh, je crois qu'ils sont morts maintenant, non? Alors je ne sais pas ce qu'il est advenu, peut-être qu'après, ils sont peut-être revenus vers Jésus, je ne sais pas, le texte ne dit pas, on n'a pas à aller plus loin. Mais une chose qui est certaine, c'est que quand on arrivera de l'autre côté, on le verra, ce Samaritain guéri de la lèpre. Et je suis sûr que dans le ciel, il continue à chanter les louanges de celui qu'il avait rencontré dans sa vie, Jésus qui guérit et Jésus qui l'a sauvé. Alors en conclusion, oui, salut et guérison vont ensemble pour celui qui sait voir dans son cœur. Les autres ont vu de leurs yeux, mais lui, cet homme, il a vu avec les yeux du cœur. Et quand on regarde avec les yeux du cœur, l'illumination du cœur, comme Paul dira aux Éphésiens, « Je fais mention de vous dans toutes mes prières, afin que Dieu illumine les yeux de votre cœur. » Nous avons des amis qui viennent nous rejoindre dans nos réunions d'évangélisation, dans nos missions d'évangélisation, et qui sont guéris physiquement. Et vous savez, je pense qu'il faut le dire encore, moi je bénis Dieu qu'il y ait des guérisons divines, que Dieu guérit encore des enfants de Dieu, que Dieu guérit des gens qu'il va chercher de droite et de gauche, ça c'est certain. Je bénis le Seigneur, mais le plus grand de tous les miracles, c'est quand il guérit une âme et qu'il la sauve pour l'éternité, c'est autre chose. Qu'elle a été sauvée parce que dans son corps qui est malade, mais qu'elle a été sauvée parce que finalement, eh bien, c'est tout son être qui est sauvé. Le corps, l'âme et l'esprit. Et ça, ce sont les yeux de notre cœur. C'est pas autre chose. Je voudrais terminer par 2 ou 3 citations, si vous me le permettez. Parce que, il y a des belles choses aussi, hein, qui peuvent être dites en conclusion pour synthétiser un petit peu la pensée. Écoutez dans le psaume 32, je vous donne pas les références, je vous ai quand même dit le psaume 32, mais le verset, il est dit ceci, « J'aurai les regards sur toi, le regard sur toi », nous dit Jésus, ou les contextes, « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai et j'aurai les regards sur toi ». Dans le livre, toujours du livre des psaumes au chapitre 34, il est question de regard également, 34:6, il est dit, quand on tourne vers lui les regards, ouais, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Où est celui qui m'a guéri? Où est-il ce Jésus? Vous savez, quand il a ouvert les yeux de l'aveugle, on est venu lui poser, mais où il est ton Messie? Où il est celui qui t'a ouvert les yeux? Cet homme dira, mais je ne sais pas, mais en tous les cas, je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant, je vois. Voilà, hein, tout simplement. Allez, encore les Hébreux. Hein, dans le livre des Hébreux, au chapitre 12, il nous est donné aussi cette belle parole qui clôture finalement notre petite réflexion. Écoutez, « Ayant les regards fixés sur Jésus, celui qui est le chef et le consommateur, le rémunérateur de la foi, celui qui sait parfaitement que quand un homme dispose dans son cœur de la foi, eh bien c'est lui qui honore cette foi et c'est lui qui récompense, en quelque sorte, si on peut parler de récompense. C'est lui qui donne l'exaucement à nos prières. Et puis, dans l'épître de Jacques, il est simplement rappelé aussi cette parole, 1:25, il est dit ceci, « Mais celui qui aura plongé les regards ». C'est ce que nous faisons cet après-midi, hein. Vous avez votre Bible ouverte, nous plongeons les regards dans la loi parfaite. Et la loi parfaite, elle est incarnée par Jésus, par sa parole, par ses promesses, par ses actes, par sa main qui touche, par son sacrifice. Alors, ayant plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, parce que ces hommes lépreux n'étaient pas libres, ils étaient malades, et Jésus a rendu la liberté à tous. Dans la loi de la liberté, et qui aura persévéré, parce qu'il fallait jusqu'au bout. Voilà, la persévérance, en l'occurrence, pour ce lépreux qui revient vers Jésus, c'était de faire demi-tour, lui. Il a persévéré. Il s'est dit, qu'est-ce que je vais faire si je ne suis pas les autres? Ce sont mes amis, on est tous guéris. Alors, allons, continuons à aller voir le prêtre. Continuons dans la religion. Continuons avec ce que nous connaissons. C'est tellement plus sécurisant. Mais il a dit, moi, je fais de demi-tour et je persévère pour aller jusqu'à Jésus et lui témoigner de ma reconnaissance. Alors n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, fortifiant notre foi, celui-là sera heureux dans son activité. Quel bonheur! Quel bonheur de cette parole! Quel bonheur de savoir qu'à un moment ou un autre, eh bien Jésus nous a rencontrés, que Jésus peut nous rencontrer et que demain, il y aura peut-être pour d'autres, eh bien une rencontre pour le Seigneur et il illuminera les yeux de leur cœur. Et là, eh bien, il y aura ces quatre regards dont nous avons parlé. Quand Jésus nous voit, le regard des hommes sur nous, notre misère, mais je le répète, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Il y a le regard sur moi-même, si je vais vers, finalement, eh bien, une foi complète et totale, une foi rayonnante, ou si je vais vers le découragement. Et puis, il y a le regard de l'adoration, qui est la conclusion, parce qu'à ce moment-là, eh bien, on peut dire comme Job, et je termine, j'ai du mal à terminer, on peut dire comme Job, parce que ça vient au fur et à mesure, on peut dire comme Job, j'avais entendu parler de toi, Seigneur, mais maintenant, mon œil t'a vu. Ça, c'est la plus belle, la plus grande de toutes les choses. Merci Seigneur. Donne-moi la vision pour pouvoir te rendre grâce et t'adorer Jésus. Que Dieu nous bénisse. Amen. On va prier quelques instants si vous voulez bien. Amen. Seigneur, je veux te rendre grâce et te remercier. Quelle belle histoire que ces regards croisés, que ces regards qui viennent du ciel vers moi, vers nous, que ces regards que nous pouvons avoir, nous, vers le ciel, et ce ciel qui s'ouvre et qui nous montre notre Dieu, notre Sauveur, notre Seigneur, qui nous montre le Rédempteur qui est venu vers les hommes, vers chacun de la misère de cette terre, pour nous montrer, Seigneur, que nous ne sommes pas en dehors de ta compassion, de ton amour, de ta puissance et de ton pouvoir de nous faire du bien. Mais Seigneur, nous voulons tout simplement, Père éternel, prendre en considération que si Dieu me voit, si Dieu nous voit tels que nous sommes, alors à ce moment-là, savons qu'il y a une porte royale qui s'ouvre pour nous. Cette porte royale, nous l'appelons la guérison divine, la délivrance, le secours de Dieu, le secours qui vient du ciel et qui là, eh bien, en effet, si toutes les choses de cette terre que nous regardons pâlissent, il y a une chose qui rayonne, une lumière, Seigneur, inaccessible, mais qui, véritablement, Seigneur, couvre, eh bien, la terre entière et remplit nos cœurs de bonheur et de joie. C'est la lumière que tu nous envoies par ta parole que nous croyons, et cette parole nous amène tout simplement à te rendre grâce pour ce que nous avons rencontré Jésus, et te rendre grâce parce que nous te glorifions. C'est le regard de l'adoration. Merci Seigneur, parce qu'à partir du moment où nous avons fait cette expérience, eh bien nous nous attachons comme ce Samaritain, eh bien nous nous attachons au pas de Jésus, et nous ne voulons pas le quitter, puisque en effet nous avons les regards sur lui, comme lui a les regards sur nous. Merci Seigneur, merci Jésus. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.